Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Christelle Cholema. C'était un nom de quelle origine ?
C'est néerlandais.
Néerlandais. Vous êtes professeur de mathématiques, là-bas dans le sud-ouest, à Oloron.
À Oloron, Sainte-Marie,
ouais. Vous travaillez dans le cadre d'un laboratoire de mathématiques du lycée. Alors j'aimerais en savoir un peu plus. Qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire de mathématiques ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche pas ?
Alors, dans un club de maths, pas dans un laboratoire.
Club
j'ai
de maths.
Pas de labo, ouais.
C'est quoi la différence ?
Alors, un laboratoire, je le vois plus comme un lieu de réflexion entre enseignants. Le laboratoire de maths, le club de maths, c'est un regroupement d'enseignants, d'élèves volontaires qui sont réunis soit pour un projet qu'on établit ensemble. Ou un projet qui anime le professeur. Souvent, c'est comme ça, une passion qu'a le prof, qu'il a envie de partager. Le laboratoire, je vois plus entre enseignants.
Est-ce qu'il y a un laboratoire à Oloron ?
Non.
Non ?
On y a pensé avec les enseignants, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. Il y en a un à Pau, il marche très bien, le laboratoire de maths du lycée Bartou.
Revenons au club. Alors, le club, il regroupe Christelle et combien d'élèves ?
Cette année, il y a Christelle, il y a moi, pardon, et puis notre professeur Marine Tapp, qui m'a rejoint cette année. Et puis, on a, depuis 8 ans qu'il existe, une douzaine d'élèves, des garçons, des filles, de la seconde à la terminale, des élèves volontaires.
Alors, on travaille à quel moment ? Pendant la pause déjeuner ? Après les classes ?
Oui, on travaille sur le temps libre des élèves. Donc, cette année, nous avons réussi à avoir pour les clubs la pause méridienne du jeudi. L'année dernière, nous ne l'avions pas, c'était les mercredis après-midi. Les élèves ne revenaient pas tous les mercredis après-midi, mais de nombreux mercredis après-midi. Et on avait beaucoup plus de temps.
Alors, je suis anxieux de savoir ce qu'on y fait dans ce club.
Alors, chaque année, l'activité est différente. Suivant les envies, enfin mes projets, ça vient quand même globalement de moi. Donc j'ai envie de travailler sur l'architecture. Donc je le propose aux élèves, j'ai quelques idées et je suis toujours avec un ou plusieurs chercheurs, plusieurs universitaires. Pour plusieurs raisons, pour enrichir le projet, parce que les universitaires ont peut-être un autre point de vue, vont parler aussi de leur parcours, vont donner des sujets de recherche aux élèves auxquels je n'aurais pas pensé. Et ensuite, moi, je les forme à être des médiateurs. Ça, c'est depuis le début.
C'est Christelle qui forme l'universitaire à être médiateur ?
Non, les élèves.
Ah,
avec les universitaires et moi.
Mais pourquoi pas ? Non, pourquoi pas ? Beaucoup d'universitaires ont grand besoin d'être formés pour être médiateurs. Ce n'est pas parce qu'on est universitaire qu'on est médiateur. Je connais beaucoup d'exemples d'universitaires qui en sont totalement incapables.
Moi, pas beaucoup, mais par contre, qui ne l'ont pas fait. Qui n'ont pas été médiateurs, oui. On les invite dans les classes, ils sont habitués. J'avais commencé par un sujet de maths en jeans. C'est du clé en main, on est encadré par une équipe, en Nouvelle-Aquitaine, une super équipe.
Peut-être que je peux couper une seconde pour demander, est-ce que nos auditeurs ne savent pas très bien, qu'est-ce que c'est que maths en jeans ?
Le principe d'un atelier maths en jeans, c'est un atelier où des élèves travaillent avec un universitaire sur un sujet de recherche. Ce sont des apprentis chercheurs. Et puis, ils vont travailler au fil de l'année. Ils vont participer à un congrès Matangine où ils vont exposer leurs résultats, aboutis ou pas, démontrés ou pas, à leur père et puis aussi devant d'autres universitaires. C'est un formidable projet.
J'ai participé plusieurs fois à ce congrès. C'est un grand moment de bonheur quand on voit les élèves qui exposent leurs résultats devant les professeurs. Ce sont des grands moments. Alors, point à la ligne, revenons au club.
Revenons au club. Donc, on travaille sur un projet sur l'année. Les élèves apprennent avec un chercheur. Cette année, ils travaillent sur les voûtes et les entrelacs. Et ensuite, ils participent, depuis 2 ans, ils participent à un concours, le concours vidéo d'IMAT. C'est une manière pour moi de les obliger à restituer leur recherche sous forme d'une vidéo courte qui parle beaucoup aux élèves et aux enseignants, qu'on peut glisser de temps en temps, puis qui reste surtout. Et ensuite, on fait des ateliers. Bon, ça, c'est moi qui les conçois. Je conçois des ateliers que les élèves animent. Donc, cette année, comme ils travaillent sur les entrelacs, ils vont animer des ateliers de construction d'entrelacs au sol avec des craies. Voilà, du street mat.
J'ai entendu parler de voûtes. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On en fabrique des vrais ou pas? Ou on les regarde?
L'année dernière, on a travaillé il y a 2 ans sur la cathédrale de l'église Sainte-Marie. On a regardé les voûtes, on les a modélisées, ils les ont modélisées sur GeoGebra pour essayer de comprendre ces croisées.
Donc GeoGebra, c'est un logiciel de géométrie dynamique, comme on dit parfois.
C'est ça. Ouais. Ils ont vu aussi des arcs. Les élèves prenaient des photos, les mettaient et utilisaient GeoGebra pour identifier les arcs. Et on a découvert une quantité d'arcs différents. Et sur les voûtes, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait passer en 3 dimensions. C'était très beau. Dans l'animation, vous voyez ces croisées d'ogives. C'était vraiment beau. Ils ont modélisé des coupoles. Moi, c'était un beau projet. Et cette année, on regarde une voûte que l'on peut modéliser par un octogone. En fait, elle a en 8 sommets partent des ogives, et on l'a transformée en un objet d'étude arithmétique. Comme l'ordre de l'Ambiatia, le cap de la Néopoude qui se destaque chic à chic, chez ce qui pousse à rire.
Alors, vous m'avez parlé aussi d'autre chose qui j'aimerais qu'on puisse préciser un peu, cette histoire de route à travers les Pyrénées, en quelque sorte, pour aller de l'autre côté de la frontière, à Saragosse. Dites-moi un peu plus.
Alors, la route historico-mathématique, c'est une idée d'un collègue, Christian Martin Rubio, qui est de Saragosse, que j'ai eu la chance de rencontrer grâce au projet Erasmus, et qui, lui, donc, fait une route historico-mathématique dans Saragosse. Alors, il nous balade dans la ville et il a des points clés historiques, l'entrée de Saragosse.
Il faut peut-être dire pour nos auditeurs qui seraient très mauvais en géographie, que Saragosse est juste de l'autre côté d'Oloron par rapport aux Pyrénées.
C'est ça, en Aragon. Donc, il part de l'Aljaferia, qui est un palais arabe, et il va nous parler de mathématiciens. Et une fois qu'il nous a parlé de mathématiques ou de mathématiciens, il nous fait faire des exercices. On suit, c'est une visite guidée très particulière. On est sur l'histoire des maths. Il fait le parallèle entre l'histoire de l'humanité et l'histoire des maths. Il nous parle de personnes qu'on oublie, qu'on a oubliées, notamment des noms de mathématiciens arabes, par l'histoire qui s'est passée en Espagne, qu'on réhabilite maintenant.
C'est une visite en espagnol ou en français?
Oui,
en espagnol.
En espagnol.
Et c'est destiné aux adultes ou aux enfants?
À tout public. Christiane travaille à l'université de Saragosse où il y a une très belle dynamique en mathématiques et en médiation mathématique. Et il le propose à des groupes, c'est des groupes de Los Talentos de Mathematicos, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, c'est des étudiants, des enfants, des scolaires, petits et grands, qui viennent à l'université. À la fin de l'année, ils leur font faire cette balade. Voilà.
Est-ce qu'il y a le projet ou l'idée de traverser les Pyrénées.
Ah bah oui, j'ai été fascinée par cette visite historico-mathématique de la ville. Et puis, il m'a parlé d'une mathématicienne, Maria Andressa Casamayor, qui a édité un livre d'apprentissage des mathématiques. On peut dire que c'est le premier manuel en Espagne. Elle avait fait un anagramme de son nom qui paraissait celui d'un homme.
Bien sûr.
On l'a découvert il y a peu de temps.
Quelle époque ?
1700 et quelques.
Mais elle était française, non ? Elle était née en France ?
Alors non, il me semble qu'elle est née en Espagne. Par contre, son père, sa famille sont nés à Oloron. Et donc, quand j'ai su ça, j'ai dit, ben, tiens ta route, on va lui faire traverser les Pyrénées.
Revenir dans la ville de ses parents.
Exactement. Quand Christiane est venue à Oloron, on est allé à la recherche de traces de son père. On n'en a pas trouvé parce que lui était commerçant. Il y avait beaucoup de commerce entre Oloron et Saragosse à ces époques-là.
Et alors, le livre de cette mathématicienne est un livre de quoi ? De calcul, de comptabilité de...
Oui, voilà. Il s'adresse aux futurs commerçants. Parce qu'à l'époque, il y avait une quantité d'unités. Nous, on en a peu. Hein. Quand on est sur les masses, on a les grammes, points, et puis
grâce, tout ce qu'ils ont avec. Grâce à l'Académie des sciences.
Grâce à l'Académie des sciences. Et à cette époque-là, en fait, si vous étiez à Saragosse, à Huesca ou à Madrid, vous aviez des unités différentes, avec des pièces différentes. Enfin, c'était un casse-tête. Et elle a eu l'idée donc, de faire un livre pour toutes ces conversions. Les prix, les masses... tout ce qui était ce dont avaient besoin les futurs commerçants. Et ensuite, elle a beaucoup œuvré à l'éducation des filles.
Est-ce que l'idée est de transformer ça en un outil pédagogique franco-espagnol ?
La route historico-mathématique, on la pense, on la conçoit pour des enseignants. Ou pareil, on va aller dans des villes et on va dans des endroits et on va faire des exercices de maths pour inviter des collègues à soit participer à des séjours pédagogiques, soit créer carrément un séjour pédagogique où les élèves vont faire des maths dans certains lieux.
Toutes ces activités sont bien sûr volontaires et bénévoles.
Oui, alors on est tous les deux, on a identifié plein de lieux et on le fait dans notre temps libre, voilà, sur notre temps libre.
Est-ce qu'il est concevable que l'Éducation nationale considère que ce genre d'activité pédagogique pourrait faire partie de ces pactes qui permettent aux enseignants d'avoir un bonus de salaire ?
Oui. C'est prévu maintenant, faut adhérer à cette philosophie-là ou pas.
Et alors, vous y adhérez ou pas ?
C'est en demi-teinte. Pour les clubs, oui. J'ai dû signer parce que les moyens, on n'a pas de moyens, trop de financement, des moyens propres dans l'établissement. Donc, c'était la seule façon d'avoir des heures pour faire ce bénévolat dans le club. Mais après, il y a un cadre aussi qui sont les ateliers scientifiques. Un cadre national, mais où l'Académie de Bordeaux se distingue, puisque si on présente ce projet-là, un projet d'atelier scientifique, donc des ateliers où les élèves font des sciences avec un partenaire scientifique, on peut avoir aussi des moyens. Donc il existe des moyens, il faut quand même aller les chercher.
Encore une question. Que pensent les collègues qui n'ont pas ce genre d'activité, mais ils ont bien le droit aussi de ne pas avoir ce genre d'activité, quand ils voient une Christelle qui se démène et qui fait des choses un peu inhabituelles ? Est-ce que ça se passe bien ou est-ce qu'ils sont jaloux ? Est-ce qu'ils râlent un peu ? Ils sont contents ? Ils essayent de participer un peu ? Comment ça marche ? Le rapport avec les collègues ?
Dans cet établissement, ça se passe bien, mais je bouscule. Ça, c'est sûr, je bouscule certaines habitudes. Ce changement de posture dans les clubs, elle n'est pas évidente. Moi, je l'adore. On apprend avec les élèves. On n'est plus celui qui apprend aux autres, on apprend ensemble. C'est-à-dire, quand je donne des sujets, moi, je ne maîtrise pas le sujet. Je vais le travailler avec les élèves et on a ce changement de posture qui peut perturber, qui peut prendre aussi un peu de place et ça peut déranger, mais ensuite, eux, ils voient leurs élèves qui sont heureux.
Comment ça se passe avec les profs d'autres disciplines? Par exemple, si on parle de voûte, il y a immédiatement des questions finalement évidentes en lien avec la physique, la statique. Comment est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on choisit telle courbe plutôt qu'une autre? Pourquoi ces voûtes ne se cassent pas la figure, etc. Est-ce que les profs de physique, par exemple, est-ce que les profs de physique participent à ce genre de discussion?
Alors, ce genre de discussion, oui, mais la physique sur les voûtes, elle est complexe.
Ah oui, je sais, oui.
Donc ils m'ont dit non, là, c'est un peu compliqué. Mais ils discutent avec moi. Il y a déjà eu l'intervention d'un collègue sur une heure. Voilà, qui ne va pas forcément s'investir sur tout le projet, mais qui peut venir. On a un collègue d'espagnol aussi qui vient, puisqu'on va à Saragosse. J'ai une autre collègue d'espagnol qui est venue parce qu'elle a une formation en histoire des arts. Tout le monde est le bienvenu. Dans ce club, on n'a pas que des élèves qui sont bons en maths, on a des élèves surtout curieux. Donc un collègue qui est curieux, il vient.
Ça me fait penser à la saga La Familia à Barcelone, Gaudi. Dans les sous-sols de la cathédrale, il y a une indication de la manière dont il a dessiné les voûtes.
Ouais.
Vous connaissez?
Oui, à l'envers.
C'est incroyable. Et je pense que c'est une belle illustration de comment faire de la physique sans rien connaître en physique.
Et puis le problème de la chaînette, quoi. Il est passionnant à travers le temps. Mais c'est marrant que vous me dites ça parce que la prochaine route, la route historico-mathématique de Saragosse à Oloron sera terminée, je pense en faire une de Barcelone à Toulouse. Et évidemment, le premier à Barcelone, ça sera Gaudi. On rendra honneur à Gaudi.
Voilà, Christelle va voyager à travers le monde, ou au moins à travers l'Espagne.
Oui, et puis là, Grote indique que j'essaie d'aborder difficilement. Ces mathématiques sont compliquées, ils me sont inaccessibles, mais on passera en Ariège, forcément, dans l'endroit où il a fini sa vie retirée. Et puis, on ira en Italie.
Oui.
Ça, j'ai très envie. L'Italie, jusque Lyon. On passera peut-être vous voir.
À Lyon, il faut voir des Argues. C'est des Argues qui a dessiné l'escalier dans la mairie de Lyon.
Ah oui, je l'ai vu en photo, ouais.
Derrière la cathédrale Saint-Jean, il y a un petit jardin qui s'appelle le jardin des Argues.
Des Argues.
Bon, il y a de quoi voyager.
Ah, et puis le dernier, il faut que je vous dise, elle partira d'Allemagne. Ah ouais, parce que l'Allemagne, les mathématiciens allemands, j'ai très envie aussi de les mettre à l'honneur. Donc c'est plutôt un projet Erasmus, ouais.
Au cap de l'éternitat, a truques et trentalia, a dulcette sma pausat, chens qui pouche qui arre.
Vous avez écouté Amontagnada, du compositeur béarnais Johann Frances Tissner. En écoutant cette œuvre, même si je ne parle pas occitan, j'ai vraiment l'impression de monter les pentes des Pyrénées accompagné de Christelle et une ribambelle de jeunes qui se dirigent vers Saragosse. Merci Christelle.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.